Vous écoutez
RMC. RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h07, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission en direct le samedi, le dimanche, de 9h à midi. Nous avons évoqué à partir de 9h, France-Nouvelle-Zélande. Ce match est-il capital? Ça a chauffé dans le studio RMC. Vous pouvez d'ores et déjà aller réécouter ce passage en podcast. Toujours avec Christophe Cessieux, David Douillet, Philippe Saint-André, Denis Charvet. Dans quelques instants, le bras de fer des GG, le désamour envers l'équipe de France de foot. Est-ce que c'est passager ou installé? 10h30, on vous parlera de cette information choc hier soir. La rétrogradation à titre conservatoire de l'Olympique Lyonnais à la fin de la saison. Décision de la DNCG, le gendarme financier du foot français. On vous expliquera évidemment ce qui s'est passé hier soir. Et puis 10h45, la crise de la soixantaine, signée Christophe Cessieux. Mathieu Jalibert,
oui,
doit-il renoncer au bleu? Carrément renoncer,
oui, bah oui, bah oui, il s'est encore passé des choses pour lui cette semaine. Je vous en parlais déjà la semaine dernière. Là, cette fois-ci, c'est comme Dreyfus, son sabre a été brisé. Il a été dégradé, viré de l'équipe de France. Enfin, il est parti tout seul. Bref, que doit-il faire? Est-ce qu'il doit encore espérer? Ou alors faire un grand bras d'honneur à Fabien Galthié? Je vous poserai la question, messieurs Saint-André et Charvet.
Mais comme Dreyfus, est-il vraiment innocent, Mathieu Jalibert? On se posera la question à 10h45. C'est la crise de la soixantaine, signé Christophe Cessieux. Et puis vous le savez, sur RMC, vous pouvez remporter 100 000 euros, une somme inédite. 100 000 euros, ce sera à 11h25. Soyez bien présents.
Net d'impôt.
Au rendez-vous. Net d'impôt, évidemment. Toujours très. Je vois que Vincent Moscato et toi, à chaque fois, vous dites net d'impôt. C'est un truc qui
ils
vous...
sont traumatisés par les impôts.
Ouais, c'est un truc qui
c'est
vous...
ça, le problème, des mecs qui gagnent trop d'argent.
C'est pour nos auditeurs qu'on le dit.
Oui, oui, tu as raison.
Ils jouent.
Mais on sent que.
Ah ben non, on en incite les joueurs, les auditeurs à jouer et à gagner.
100 000 euros net d'impôt, J-5.
Vous êtes
avant
sûr votre
de les remporter.
C'est vraiment net d'impôt.
Ah oui, c'est vraiment net d'impôt. Tu peux nous faire confiance. Ouais. Mère Teresa a dit un jour, le manque d'amour est la plus grande pauvreté.
RMC, le bras de fer GG.
Di Marco, la talonnade, Tonali, la frappe et le but. Di Marco, c'est nul.
Je pense que si les gens ils aiment pas ce qu'ils voient, ils changent de chaîne, c'est plus facile à la maison.
C'est terminé, l'équipe de France manque totalement sa rentrée, une équipe de France sans inspiration.
Arrêtez de roupiller, meublez-vous.
Quand ils sont au stade, ils ont payé le billet, il reste des débuts jusqu'à la fin.
La France fait match nul 0-0 contre l'Israël. Elle se qualifie pour les quarts de finale, certes. Petitement.
C'est ennuyant de ne pas avoir marqué avec toutes les occasions qu'on s'est procurées.
Je ne peux pas supporter ça plus longtemps, je m'en vais.
Les Bleus qui terminent sous les sifflets de leur public, leur maigre public, ce soir, soirée à oublier.
Je ne t'aime plus, tous les jours.
Tous les jours, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a un je t'aime moi non plus. Insipide, insupportable, lamentable. Les qualificatifs n'ont pas manqué pour juger la prestation des Bleus jeudi soir face à Israël. Match nul dans tous les sens du terme, 0-0. La seule bonne nouvelle, vous l'avez entendu dans la voix de Jeannot Rességuier, l'équipe de France est qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Depuis quelques mois, le public se détache peu à peu de cette équipe de France. Les raisons sont multiples. Le manque de stars, les cadres sont partis. Griezmann, Varane, Loris et autres, Giroud. Et le jeu et le spectacle proposé aussi est parfois maigre. C'est le quatrième 0-0 en 2024 des Bleus du jamais vu depuis 20 ans. Le désamour est-il passager ou installé? Dans le coin gauche, la team installée, représentée uniquement par Christophe Cessieux.
Ça vous étonne?
Dans le coin droit, la team, vous inquiétez pas, c'est passager.
Ouais.
David Douillet, Philippe Saint-André, Denis Charvet.
Ça, c'est les gigots haricots, là. La bande des gigots haricots.
Alors, sachez que pour l'instant, le peuple est avec Christophe.
Bah oui.
Le peuple vote, 67%, c'est durablement installé.
Le peuple ne croit plus à cette équipe de France.
33% seulement passagers. Ce sera à vous de commencer, messieurs.
Oui, Denis, je
et d'essayer
bien
de convaincre votre ami Christophe, mais aussi nos auditeurs qui nous écoutent. Avant de débattre, on va retrouver notre suiveur des Bleus, Valentin Jamin. Bonjour Valentin.
Salut les grandes gueules du sport, salut à tous.
Les Bleus ont-ils conscience de ce désamour?
Alors pas vraiment si on écoute leur réponse, à l'image de ce que nous disait hier le défenseur Luc Adigne.
Non, je pense pas. Je pense que les gens sont toujours attirés par le football et après, ce sera à nous de montrer une meilleure image et je pense que les gens nous soutiendront s'ils ont l'image qu'ils souhaitent et qu'ils apprécient.
Voilà, sous-entendu, les Bleus peuvent faire bien mieux pour séduire leur public. Et d'ailleurs, les audiences télé montrent ce désamour. 4,8 millions de téléspectateurs en moyenne depuis la rentrée pour l'équipe de France. C'est moins, par exemple, que pour les matchs contre la Grèce ou Gibraltar il y a un an. Le milieu, Matteo Guendouzi, lui, essaie de relativiser.
Que les gens regardent le match ou viennent au stade ou pas. Nous, notre job, c'est d'être le meilleur sur le terrain, de gagner les matchs. Après, on le sait, hein, tous les matchs ne sont pas faciles. Nous, bien évidemment, on espère que les gens viennent beaucoup plus au stade. On espère avoir de belles atmosphères. Le plus important pour nous, c'est de gagner, d'essayer de donner de l'amour à tout le monde.
Et oui, les Bleus attirent aussi moins les foules en tribune. 16 000 personnes contre Israël avec les circonstances que l'on connaît, exceptionnelles. Mais le match contre la Belgique en septembre n'avait même pas rempli le stade de Lyon après une année difficile sur le plan du jeu, même si le sélectionneur Didier Deschamps se défend.
Oui, ça n'a pas été simple. C'est jamais simple. Il y a eu des complications. Malgré tout, vous savez ce qu'on a réalisé au mois de juin. Là, on était sur ces 6 matchs de National League avec une volonté de ma part et de voir beaucoup de joueurs. Évidemment, ça va pas dans le sens de l'expression collective.
La France qui a concédé 4-0-0 en 2024, c'est du jamais vu tout simplement depuis 20 ans.
Merci beaucoup Valentin Germain pour toutes ces précisions. Le désamour est-il passager ou installé? On vous a posé cette question sur le compte X des grandes gueules du sport. Pour vous, c'est installé à 67%. David Douillet, Philippe Saint-André, Denis Charvet, vous avez du boulot pour convaincre. Pourquoi c'est seulement passager, Denis Charvet?
Écoute, j'espère que c'est passager. Après, je suis un peu sceptique quand même. Je regarde les matchs comme tout le monde et c'est vrai qu'on s'ennuie. On s'ennuie à tous les niveaux. Alors après, pourquoi je dis que passager? Parce que il faut se remettre dans le contexte, de ces compétitions qui servent à rien, qui remplissent un calendrier, qui fatiguent les joueurs. L'envie n'est pas là, on le sait très bien.
Donc, qui fatigue le public aussi.
Et ça fatigue le public, mais ça fatigue les joueurs avant tout. On sait très bien que le calendrier est surchargé, que les joueurs, en ce moment, ils font une pétition à travers le monde pour dire, il y en a marre, il y a trop de matchs, donc on va réduire ce calendrier. Ils n'y arrivent pas. Et en plus de ça, ils remettent des compétitions en plus. Ils en rajoutent. Mais sincèrement, moi je compatis un peu, voilà, c'est en ce sens que je dis que c'est passager, parce que la qualité, le talent, il y en a dans toutes les lignes de l'équipe de France. Je suis désolé, tu peux pas dire qu'il n'y a pas de talent, que ce soit le goal, que ce soit Mbappé qui va revenir, et forcément alors Grisou est parti, ça c'est un peu regrettable, mais après t'as Kamavinga, t'as des jeunes qui arrivent, Zaïre Emery, tout ça, Barcola, qu'ils mûrissent tout simplement. Donc j'ai espoir. Par contre, c'est vrai que en ce moment c'est le néant, quoi. Voilà. C'est techniquement, collectivement, c'est. J'ai regardé ce match France-Israël, sincèrement. Donc, je sais pas comment j'ai fait pour regarder jusqu'au bout, quoi.
Non, c'est la méthode. Ouais, ça va aller.
Je suis pas optimiste. Le problème
populaire. Et oui, tout, mais c'est bien la méthode Coué.
Alors oui, mais sauf c'est que l'audience du match est très bonne. Hein.
Non, elle n'est pas très bonne. Ah, elle est dans la moyenne de ce qui s'est passé en 2024. On s'attendait à pire.
Ah, mais non, mais d'accord, mais c'est un match.
4,9 millions pour un match de l'équipe de France.
En plus, les gens regardaient le match à la fois pour voir l'équipe de France, mais il y avait aussi
le contexte, cette
odeur de soufre autour. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui.
Alors, David, vas-y, entre dans le sujet.
Non mais oui.
Allez,
parce que là on parle. Enfin bref, le pour dire crûment les choses et directement les choses, est-ce qu'on a toujours le bon entraîneur? Est-ce que il fait grimper les joueurs au rideau? Oui. Réponse non. Et est-ce qu'on a des joueurs qui ont envie, qui ont la flamme de l'équipe de France dans le bide et qui ont envie de se sortir les tripes? Là, réponse non. Voilà. On fait quoi? Voilà. Et c'est pour ça que je dis que c'est passager, parce que le jour où on a résolu ces deux choses-là, est-ce que Didier peut se reconstruire, se remobiliser pour redonner de l'énergie à son groupe? Là, ça pourra peut-être repartir. Et puis, est-ce que les joueurs ont envie de jouer? Sont motivés pour l'équipe de France?
Oui, mais il y a l'intérêt aussi.
Là, il y a une possibilité de repartir. Attends, si ces deux conditions-là ne sont pas réunies, on restera avec des 0-0 ad vitam aeternam. Hein.
Mais en creux, tu es en train de nous dire que si on change un peu l'équipe, si on change un peu le sélectionneur, là, ça peut repartir.
Pas forcément l'équipe, l'état d'esprit de cette équipe. C'est-à-dire que là, on a des gens qui se battent pas, qui ont pas envie de se battre, peut-être même pas envie de porter le maillot. C'est des questions que je pose. Hein. J'ai pas de réponse à ça. C'est ce que je constate en fait. Quand des gens comme ça passent la balle, etc. Bon, 0-0, très bien, etc. Ils sortent pas les tripes, quoi. Et puis pour sortir les tripes, on a besoin d'un entraîneur et d'un coach qui vous pousse au cul, parce que quand t'es fatigué de ta saison dans les clubs, et Denis l'a dit, ils sont sont overbookés de matchs, et ben quand t'arrives en équipe de France, t'es là, tu vas putain, faut que j'y retourne. Et ouais, avec donc, le maillot David, bleu, c'est donc, dur. Donc David, t'as besoin d'un coach qui te mobilise.
Donc David, pour toi, passager, c'est parce que le contrat de Deschamps, il court jusqu'en 2026 quand même. Hein. Donc ça veut dire non, que passager pendant encore deux ans, quoi, en gros. Parce que tu penses vraiment que
ils vont virer Deschamps? J'ai pas dit de virer Didier Deschamps. C'est pas ce que je dis.
Ah,
je
dis qu'il s'en aille tout seul.
Il faut. Non plus. S'il n'est pas capable de retrouver une énergie pour remobiliser son groupe, voilà. C'est ce qui se passe en ce moment. Voilà, c'est tout. Et c'est le constat. Et là, aujourd'hui, il a eu toute une période, il a été champion du monde, etc., etc. Mais aujourd'hui, le groupe, il a pas la flamme. Donc s'il n'est pas capable de lui-même retrouver cette flamme et de la redonner, de la transmettre à son groupe, là, il y a des questions à se poser. Et il doit même lui se remettre en question. Parce que ce qui se fait plaisir, c'est pas sûr.
Le désamour est-il passager ou installé? Et il n'y a qu'une GG qui dit installé. Pourquoi?
Installé parce qu'effectivement, ils sont en train exactement de dire ce que je pense. C'est-à-dire que là, on est quand même dans un ventre mou au niveau de la popularité de l'équipe de France et qu'on n'est pas prêt d'en sortir. David nous dit, ouais, il faut que Deschamps s'en aille. Mais il est jusqu'en 2026.
J'ai pas dit ça.
Il faut qu'il se régénère.
J'ai dit qu'il faut qu'il se remette en question. C'est différent. Alors peut-être qu'il faut.
T'as dit en préalable, est-ce qu'on a le bon entraîneur? Non, on n'a pas le bon sélectionneur en ce moment.
Non, j'ai pas dit ça.
Attendez, je reprends juste la main. Alban Azaïs, notre réalisateur. Moi, j'ai entendu la même chose. Est-ce qu'on a le bon entraîneur? Réponse non. C'est bien ce qu'on en entendu dans cette émission. On va réécouter quand même. Vas-y Christophe.
Donc ouais, tous les indicateurs sont au rouge. Je veux dire, effectivement, Deschamps n'arrive plus à insuffler quelque chose de positif dans cette équipe. Ses conférences de presse sont à l'image de ce que ces joueurs montrent sur le terrain. Cette tactique, il y a plus rien. Il y a pas de flamme. Les joueurs de l'équipe de France, à part montrer des marques de créateurs lorsqu'ils arrivent à Clairefontaine, ils ne créent rien en dehors de ça sur le terrain. Il n'y a pas de star dans cette équipe de France. Il y avait une star, il y avait Kylian, mais Kylian pour l'instant est au fond de je ne sais où, au fond de sa maison à Madrid. Il n'a pas retrouvé la flamme de footballeur. Il nous manque quelqu'un pour relever, pour vraiment représenter ce football français.
Moi, je ne dis pas,
Zahir Emery, ils sont gentils, les Barcola,
mais
ils sont gentils.
Mais attends, Mbappé,
il avait quel âge quand il a grandi, quand il est devenu une star, avant on avait un Zidane, on avait un truc, là on a quoi là? C'est quoi l'avenir du football français? Quelles sont les stars en devenir? Quelles sont les stars qui vont aujourd'hui éclater?
Barcola.
Un jour quand il deviendra régulier, il y arrivera peut-être. Mais pour l'instant, moi je ne vois rien.
On est dans une phase
de transition.
On a connu ça dans rugby.
Cette National League, Didier Deschamps a dit qu'il allait faire beaucoup d'essais. Et il en fait beaucoup. Et il a ces 6 matchs-là. Alors, par contre, ce qui est vraiment inquiétant, c'est que cette équipe, elle dégage rien actuellement. Aucune émotion. Il y a très peu d'engagement. Alors que quand tu as des jeunes joueurs qui arrivent, qui jouent les premières sélections, même s'ils sont pas doués, ils doivent avoir faim, ils doivent mouiller le maillot, ils doivent se jeter de partout. Oui. Et c'est ce qui me dérange. Oui, mais sinon, il fait beaucoup de tests, il essaye beaucoup de joueurs. On sait que Didier Deschamps, il changeait très peu son équipe. Là, on est dans une nouvelle génération, donc donnons un petit peu de temps.
Mais vous l'avez entendu dans son discours, hein. On l'a entendu dans le reportage de Valentin Jamin. Il dit oui, voilà, j'ai voulu faire des tests. Donc forcément, il n'y a pas d'ambition collective. On peut le comprendre dans la peau d'un sélectionneur. Sauf que le grand public, quand il allume sa télé, en plus sur la plus grande chaîne en France, quand ils allument TF1, ils n'ont pas envie de voir ça.
Moi, je ne veux pas forcément défendre les joueurs, mais quand même les jeunes joueurs qui arrivent en équipe de France. Alors il dit, il fait des essais, c'est très bien de faire des essais. Mais les Zaïre Emery, les Kamavinga, ils jouent tout le temps. C'est des jeunes joueurs, mais qui jouent sans arrêt. Donc ils arrivent à un moment donné, une période où normalement tu devrais te reposer, ils enchaînent 2-3 matchs avec l'équipe de France. C'est pas pour les défendre, mais c'est une réalité du moment aujourd'hui. Ça veut dire qu'après, tu le vois bien, leurs prestations, ils sont nuls. Pourquoi ils sont nuls?
Est-ce que vous avez quand même pas, vous avez des amis autour de vous? On ne vit pas dans une bulle. C'est-à-dire qu'on n'est pas là, attendez, on est journaliste, on est consultant, on parle à personne. Vous avez des copains qui ne font pas ce métier. Vous avez des potes, vous leur demandez, tiens, t'as vu le match hier? Moi, je sais pas, autour de moi, en tout cas. Ben, le nombre de personnes qui ne regardent plus l'équipe de France. Oui. Non, mais c'est affolant.
Non, le désintéressement.
Avant, c'était jamais le cas.
Non,
est-ce que cette compétition intéresse?
Mais j'ai l'impression qu'elle n'intéresse personne.
Mais même.
Ni le public, ni les joueurs.
Avant, c'était des matchs amicaux et pourtant, ils étaient regardés, les Bleus.
Tu sais qu'il y a un match référence, c'est demain, Italie-France. Pourquoi? Parce que t'as encore la possibilité de te qualifier.
On est qualifié. C'est pour terminer premier. Non,
pour terminer premier, pardon.
Il faut que tu gagnes 2-0.
Pour terminer premier. Oui, mais c'est important de terminer premier. On verra. Non, mais on verra.
Il retourne du genre sur
ses pattes. Mais non, mais on verra.
C'est un chat.
Non, mais c'est un Italie-France. C'est un bon révélateur. Je suis d'accord.
On verra l'audience de ce match.
On va déjà voir l'audience du match ce soir.
Vous pensez que France-Nouvelle-Zélande
bien sûr.
Va faire plus de votes que France-Italie?
Bien sûr.
C'est pas sûr.
Mais bien sûr,
je sais pas. Paris, moi,
France-Nouvelle-Zélande bat l'Italie.
C'est quasiment du même niveau en termes d'adversaires pour l'équipe de France. Oui. L'Italie avec l'Allemagne, c'est quand même partie des adversaires c'est quasiment l'Italie qu'on préfère battre avec l'Allemagne. La Nouvelle-Zélande, c'est un peu la même chose. Donc on a vraiment deux magnifiques affiches et je suis curieux de savoir quelle est laquelle des affiches va faire le plus d'audience.
Je pense qu'il va avoir plus de 6 millions de personnes qui vont
6
regarder.
6 millions ce soir et 6 millions demain.
Ok.
Voilà.
Donc, match nul. Non, mais il y en a un qui fera toujours un téléspectateur de plus.
Ben oui, d'abord. Oui,
donc, lequel?
Alors, pour parler du désamour envers notre équipe de France, évidemment, il faut écouter les auditeurs qui nous écoutent très régulièrement, qui écoutent nos matchs. Et on va se demander aussi s'il y a ce désamour. Attendez. Je crois que depuis ce matin, j'ai un problème avec David Douillet. Alors, s'il vous plaît, David Douillet nous maintenait qu'il n'a pas dit qu'il fallait séparer Didier Deschamps avant d'accueillir Pierre. Parce que David Douillet, je sens qu'il a envie de me mettre des cartouches ce matin. On va écouter ce qu'il a dit il y a 5 minutes et qui, dans la seconde d'après, nous disait non, mais j'ai jamais dit ça. David Douillet, on
réécoute. C'est sûr, moi, j'ai coupé, j'ai pas le temps de finir ma phrase.
On réécoute.
Pour dire crûment les choses et directement les choses, est-ce qu'on a toujours le bon entraîneur? Est-ce qu'il fait grimper les joueurs au rideau? Réponse non.
Voilà, réponse non. C'est parfaitement ce qu'il a dit. C'est
l'arbitre. Non. Alors attendez. Non. Eh, on a le droit de se défendre dans cette
situation.
Non. Est-ce qu'on a toujours le bon entraîneur?
Réponse
est-ce
non.
Qu'il fait toujours grimper les joueurs au rideau? Réponse non. C'est est-ce qu'il fait toujours grimper les joueurs au rideau?
Non.
C'est le nom de la du rideau.
Tu peux pas danser,
là. Là, on retrouve le ministre.
Bravo, David. C'était un exercice très compliqué.
Donc,
que
un auditeur,
tu viens de faire.
Il écoute, si jamais, je sais. Un auditeur, en général, il écoute.
Sauf que si tu as écouté ma phrase, si tu as écouté, qu'il nous écoute régulièrement. C'était ça, la fin de ma phrase, si tu me laissais terminer aussi. Pierre nous appelle donc au 32-16. Salut, Pierre.
Salut l'équipe des Grandes Gueules du Sport.
Merci d'être avec nous, mon cher Pierre. Bon, tu vois, c'est animé ce matin. Ouais. Le désamour, est-ce qu'il est passager ou installé pour toi?
Bah, il est passager, en fait. Ça a toujours été. En fait, la France, on est dans un pays de footix. De footix, de rugbyx, de basketix. C'est-à-dire que dès qu'il y a une période un petit... Là, on va pas rentrer un petit peu dans les débats parce que vous parlez du jeu. Moi, je suis supporter. Moi, je regarde tous les matchs, même les plus faibles. Et effectivement, je me fais chier complètement devant les matchs. Mais en fait, on est dans une période creuse. Et quand on est dans une période creuse, les gens, en fait, c'est pas du désamour, c'est du désintéressement. En France, moi, j'en veux pour exemple la Coupe du Monde 2018, la Coupe du Monde 2022. Moi, j'étais dans les parts dès le huitième de finale en 2018, par exemple contre l'Argentine. On était 15-1 dans le bar. En quart de finale, on était 200 et en finale, on était 2000. Vous voyez, et en fait, les gens s'intéressent quand l'équipe de France, elle gagne. on n'est pas un pays de supporters, on est un pays de suiveurs en fait. Donc là en ce moment, mais vous le voyez avec le rugby, hein, avec le rugby, on a eu connu une période creuse, je crois que c'était dans les années 2010, après la Coupe du Monde 2011, on a été un peu plus compliqué, plus personne s'intéresse au rugby. Maintenant, ça y est, on commence à gagner, on a des joueurs qui incarnent un petit peu, comme Antoine Dupont, etc., qui incarnent un petit peu le rugby, donc les gens suivent, donc les audiences suivent. Et c'est vrai que dans le foot, en fait, on est dans une période un peu creuse, avec des mecs qui ont été champions du monde qui sont partis, un Kylian Mbappé qui est un petit peu entre deux eaux pour pas dire qu'il est catastrophique en ce moment. Donc en fait, les gens se désintéressent en fait, si vous voulez, parce qu'en fait, on gagne pas. Et les gens ne suivent pas. Et vous voyez, c'est pour ça que je dis que c'est passager. Après 2010. L'histoire de Naïsna, l'équipe de France, elle était au fond du trou. Et on se posait la même question. Est-ce que ça va revenir? Est-ce que les gens vont se réintéresser au foot? C'est quand même, l'image est déplorable, etc. En 2018, on était, je ne sais pas combien de millions, à fêter la victoire en Coupe du Monde.
Ah, peut-être, Pierre, mais quand on parle passager ou installé, on n'a pas dit de dans les 50 prochaines années, on va s'intéresser à l'équipe de France. Ouais. Tu nous parles de Naïsna, c'était en 2010. Je trouve que le rebond de l'équipe de France, c'est fin 2013 avec ce match France-Ukraine et la qualification pour la Coupe du Monde et la Coupe du Monde 2014. Donc il a fallu attendre quand même 3-4 ans. Donc c'était quand même assez installé. C'est ça que l'on veut dire. Mais merci d'avoir donné ton avis, parce que tu as raison, c'est vrai. Parfois, on s'intéresse uniquement à l'équipe de France, en tout cas le grand public, quand ça commence à aller en demi et en finale. On vous a posé cette question sur le compte Twitter des grandes gueules du sport, le compte X. La consultation est terminée. On a démarré à 67% passagers, 33% installés. On termine à 66%. Passagers, 34% installés. Donc vous avez fait du bon travail, David, Philippe et Denis.
Voilà. Ouais, magnifique. Bravo les gars.
Bravo les copains.
On a bien compris, en tout cas, qu'il y en a un qui veut la peau du sélectionneur. Ça, voilà. On l'a bien compris.
À Lyon, rien ne va plus. On vous donne toutes les dernières informations dans quelques instants. À tout de suite sur RMC. Moment, très bien. Franchement, magnifique. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h32, toujours avec David Douillet, Philippe Saint-André, Denis Charvet, Christophe Cessieux. Justement, Christophe Cessieux, c'est dans 10 minutes la crise de la soixantaine. Mathieu Jalibert, doit-il renoncer au bleu? Vous allez l'écouter, il a passé une semaine particulière. Je parle de Mathieu Jalibert, non pas de Christophe Cessieux. Ce sera notre rubrique que vous aimez tant le samedi à 10h45. Si ça nous intéresse ta semaine, mon cher Christophe, on a envie de ça s'est bien passé d'ailleurs.
Oui, oui, nickel.
Mieux que Mathieu Jalibert.
Ouais,
mieux. Bon, bah tu vois, c'est ce que je disais.
Toujours sélectionné dans ton équipe.
Bah, évidemment, mais bon, tu es toujours sélectionné. À partir de 11h, on parlera de nouveau de ce France-Nouvelle-Zélande. Les Blacks font-ils un complexe face aux Bleus? Et là encore, vous n'êtes pas d'accord, mais GG. Il était 19h55 hier lorsque nous avons appris cette information choc, la rétrogradation. À titre conservatoire de l'Olympique Lyonnais à la fin de la saison, décision de la DNCG, le gendarme financier, en plus d'un encadrement de la masse salariale et d'une interdiction de recrutement cet hiver. Pour tout comprendre de cette situation chaotique, notre journaliste Clément Brossard est avec nous. Bonjour Clément, l'OL hier soir a pris un coup de massue. Hein.
Salut JC, salut les GG. Et oui, le couperet est tombé peu avant 20h hier. Alors après avoir auditionné le président de l'Olympique Lyonnais, John Textor, et son directeur général, Laurent Prudhomme, en fin de matinée, la DNCG a décidé donc d'encadrer la masse salariale de l'OL et de l'interdire de recrutement. Et si des efforts sur le plan financier ne sont pas opérés avant la fin de saison, alors Lyon, 7 fois champion de France, et qui n'a connu que la première division depuis 36 ans, pourrait risquer une rétrogradation. Eagle Group, auquel appartient l'Olympique Lyonnais, affiche une dette de plus de 450 millions d'euros. Et pourtant, à la sortie de l'entretien avec le gendarme financier du football français, hier matin, John Textor s'était montré confiant, assurant pouvoir obtenir dans les prochains mois plusieurs centaines de millions d'euros via des opérations commerciales, une entrée en bourse et la vente de joueurs. « Nous ne vendrons pas nos meilleurs joueurs à moins d'en trouver des meilleurs », avait-il assuré. La donne a changé parce qu'il se retrouve désormais dans l'obligation de vendre sans pouvoir se renforcer et tout en gardant l'objectif d'une qualification en Ligue des Champions. Le patron américain de l'OL tiendra une conférence de presse ce matin à 11h afin de rendre publiques les finances du club. Une conférence programmée avant même la décision de la DNCG.
Merci beaucoup Clément Brossard pour ces précisions. Évidemment, à 11h, c'est dans 25 minutes. Hein. Dès qu'il se passe quelque chose en direct de Lyon, eh bien, nous vous passerons un extrait de cette conférence de presse très attendue de John Textor. Christophe, comment tu lis cette information? C'est vrai, quand on a vu apparaître ici sur RMC que Lyon pourrait être rétrogradé, C'est fort ce qui se passe en ce moment. Hein.
Ouais, alors évidemment, à moins d'être un expert comptable et d'avoir accès aux comptes présentés par Textor, c'est difficile de se faire une idée exacte de la situation. Mais il n'empêche, c'est vrai que c'est un coup de tonnerre. C'est un coup de tonnerre qui vient de tomber sur l'OL parce que Textor va devoir vraiment vendre un peu tout ce qu'il a de bon en vitrine pour essayer de compenser. On parle d'une dette de 500 millions d'euros quand même. C'est dingue que ce club de l'Olympique Lyonnais, qui avait été géré pendant des années de manière exemplaire par Jean-Michel Aulas, qui avait réussi à construire l'un des plus beaux stades de France, qui avait réussi à amener ce club au sommet du football français pendant des années, de voir aujourd'hui où il en est, moi ça m'inquiète et j'espère qu'on ne va pas prendre la direction de ce qu'a connu les Girondins de Bordeaux, par exemple. Et là, ce sont deux entités immenses du football français qui se retrouvent dans la mouise. Tout ça parce qu'on a vendu à des mecs, soi-disant, des grands experts, de grands gestionnaires, de grands patrons, mais qui savent pas gérer leur bien, quoi. Et aujourd'hui, c'est tous les supporters lyonnais qui se retrouvent dans l'inquiétude, tout un club, tous ses salariés, parce que ce mec, sans doute, fait n'importe quoi.
Ce qui est choquant, c'est
supporters lyonnais, appelez-nous au 32-16, évidemment, si vous voulez réagir.
Ce qui est choquant, c'est normalement, John Textor, c'est un grand industriel.
Oui, oui, bien sûr.
Non, mais tu peux te dire.
Non, mais
ce que je veux dire, après.
Non, mais
le monde du foot est différent du monde des affaires. C'est surtout ça, je crois. C'est-à-dire que la gestion n'est pas la même, Christophe, c'est pas la même. La preuve, c'est que là, tu te retrouves avec un gouffre financier que tu vas avoir du mal à compenser. Moi, je suis pas très inquiet dans le sens où il va trouver des solutions. Il a un actif à Crystal Palace, il a 40% de parts à Crystal Palace qui vaut quand même de l'argent. Il va trouver des solutions. Moi, là, je suis très, très inquiet pour Lyon. C'est plus sur le plan sportif. Parce qu'au moins, là, pour le mercato, Cherki va partir. Tu sais pas si Fofana va partir. Ils disent qu'ils vont essayer de préserver Fofana. Je vois pas comment ils vont le faire. Ils sont obligés de colmater dans les deux mois une partie de la dette pour pouvoir continuer. Donc je vois pas. Moi, je suis très inquiet pour eux sur le plan sportif, alors que ça repartait et que l'OL se portait bien.
Et d'autant que quand tu vends et que les tes acheteurs potentiels
savent que t'es
en difficulté, tu vas pas pouvoir vendre au prix fort, quoi.
Mais c'est comme l'immobilier.
Avant d'écouter David, je vous propose d'écouter John Textor. C'était avant cette décision de la DNCG, et vous l'avez entendu justement dans notre reportage, eh bien John Textor était parfaitement confiant, convaincu qu'il avait réussi à convaincre justement la DNCG.
La réunion avec la DNCG s'est bien passée. Ils ont compris notre organisation au-delà du bruit des dernières semaines. Je suis confiant, même si je reste prudent sur l'interprétation d'un organisme de régulation. La DNCG semble indépendante des pressions extérieures, malgré les tensions avec certains au conseil d'administration de la Ligue ou encore avec un grand club du Qatar. Nous défions un peu le système sans chercher à être des perturbateurs. Nous allons générer des centaines de millions de dollars de liquidités prochainement et notre durabilité financière n'est pas en question.
Il dit deux choses intéressantes. Hein. Tout va bien se passer. Et la deuxième chose, quand même. Non, mais oui. Et la deuxième chose, c'est qu'il nous dit, oui, bon, je sais pas trop si c'est un organisme indépendant, mais je me méfie, parce que, bon, on sait jamais avec le PSG, peut-être qu'ils, enfin, c'est comme ça que je le lis, hein. Peut-être qu'ils ont des influences, et donc on leur dit qu'il faut faire du mal à Lyon, quoi.
Il y a un porte-à-faux, les réseaux du PSG, ouais.
Non, mais enfin, c'est
grave.
C'est quand même hallucinant, parce que tout le monde a retenu que, bon, il était optimiste, mais ce qu'il dit dans cette phrase, c'est complètement fou pour un président.
C'est lunaire,
c'est étonnant. T'as l'impression qu'il connaît pas les règles du sport professionnel en France.
Bon, il fait semblant.
David,
semblant ne pas les connaître.
La DNCG est indépendante et elle n'est pas influencée par tel ou tel club, bien au contraire. Et heureusement d'ailleurs. Mais moi, je pense qu'avec presque un demi milliard de dettes, le garçon, plutôt que de critiquer les autres clubs ou essayer d'envoyer les flux médiatiques ailleurs, il ferait bien de s'attaquer à son bilan comptable, parce que là, pour le coup, je vous rappelle que le stade de l'OL a été vendu, donc c'est plus un actif du club, hein, c'est vendu, hein. Donc le reste, c'est les clubs ou des joueurs.
T'es sûr de toi?
Pour
je suis sûr qu'il était vendu. Non, il est pas vendu. Si. Mais non.
Non, non, il n'est pas.
C'est le naming. C'est le naming, le nom.
Le groupe appartient à Textor. C'est sûr et certain.
Vous ferez. Non, non, vous ferez votre enquête. Je sais de quoi je parle. Voilà.
Ah bon.
Bref. Non, mais je vous assure, vous verrez. Donc voilà. Et donc on est déjà dans la vente des bijoux de famille. Déjà. Ça a déjà été amorcé. Alors ça rassure pas la DNCG, il y a un stock de joueurs, il y a des clubs aussi qui font partie du panier, mais Jeune Textor, c'est un assembleur d'investisseurs, hein, faut pas l'oublier non plus. Donc si tel ou tel investisseur du tour de table s'en va ou réduit la voilure, il va être en grande difficulté, et ça même la DNCG ne peut pas le savoir, il y a que monsieur Textor qui peut le savoir. Je suis assez inquiet, très inquiet même pour tout vous dire, de ce type de gestionnaire dans le monde du foot. Voilà. Autant avant on avait quelqu'un, c'était ses sous, il a monté, il avait un projet, il y avait une intelligence parce que il y avait de l'immobilier, il y avait un modèle économique qu'il a construit, comme il a construit brillamment sa vie d'entrepreneur. Or là, on a affaire à des investisseurs. Ça n'a strictement rien à voir dans l'état d'esprit. La preuve, puisqu'on en est là aujourd'hui.
Et je précise, David, que le Groupama Stadium appartient bien à l'Olympique Lyonnais. Il y a des salles attenantes qui ont été vendues. Mais le Groupama Stadium, le stade en lui-même appartient à l'OL.
L'actif appartient à l'OL. Ça, ouais, c'est alors, ils ont alors, vendu la, la, l'aréna dans laquelle joue
l'Asvel. Oui, mais je crois qu'il y a déjà des annexes autour dans le stade qui...
Exactement, qui ont été vendues. Ça, on est d'accord. Mais le Groupama Stadium appartient à Lyon.
Bon, bah, très bien, mais on commence déjà à vendre les bijoux de famille, je vous le dis, oui, c'est comme ça que ça démarre.
C'est celui qui rapporte, enfin qui coûte le plus cher, le compas.
Ronan, supporter de l'Olympique Lyonnais,
c'est pas sûr.
Salut Ronan. Ronan, est-ce que tu es là?
Oui.
Supporter de l'OL, comment tu lis cette information? Comment ça va? Tu n'es pas supporter de l'OL, c'est ça que tu veux nous dire?
Je ne suis pas tout à fait supporter de l'OL, mais je connais mon frère. Je suis trop vieux pour être de la génération olympique lyonnais.
Très bien.
J'ai 38 ans. Néanmoins, j'entendais tout à l'heure Christophe, il me semble, déjà bonjour à tous, qui disait que l'Olympique lyonnais était bien géré avant par Jean-Michel Aulas. C'est faux. Il a été très bien géré jusqu'à la construction du stade, qui a malheureusement été retardé pour des problèmes que vous êtes sans doute au courant, et qui a généré du coup des trous de trésorerie pendant plusieurs années, obligeant l'Olympique Lyonnais à vendre des joueurs, qui avait déjà entraîné du coup une situation un peu délicate. Et après, à la cession de l'Olympique Lyonnais, il a cédé beaucoup trop cher à quelqu'un qui n'avait pas forcément les fonds. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une situation, je ne dis pas que Jeune Textor est un homme parfait, il a fait des erreurs, mais l'Olympique Lyonnais n'était pas dans une super forme au niveau financier, et surtout avec des joueurs qui étaient plus bankable avec les mouchoirs qui avaient déjà été vendus. Les
Donc il a vendu
Cadette,
un canard boiteux et un groupe en déshérence, c'est ça, là, ça
c'est pas Textor. Je ne dis pas que c'était pas une catastrophe, hein. C'était pas un club qui valait le prix auquel il était vendu, c'est tout.
Ouais. Il a très bien été vendu.
Ça n'engage que vous.
Oui,
ça n'engage que vous.
Ça n'engage que moi, mais
il a trouvé un pigeon américain, quoi, en gros.
Je suis d'accord.
Non, c'est pas vrai.
Les bilans financiers, la valeur d'un euro, elle est la même que ce soit américaine ou française.
Non, c'est pas vrai, parce que excusez-moi, je connais un petit peu de ce dont on parle. Les agences ou les sociétés qui sont là pour évaluer des biens ou des fonds de commerce ou des zones d'achalandise, etc., etc., je vous assure que vous pouvez tout leur faire dire. Et on peut trouver des résultats qui vont du simple au double. Donc, tout ça, ça veut rien dire. C'est de la littérature. Jean-Michel Aulas, il a construit un modèle économique basé sur de l'immobilier dans lequel il faisait des événements, pas que sportifs, mais je trouve que ce modèle-là devrait être le modèle suivi par tous les clubs en France. Voilà, okay. C'est la base pour démarrer une économie durable d'un club.
Bon, conférence de presse de Jeune Textor, le propriétaire de l'OL. Ce sera à partir de 11h, et évidemment, dès qu'il se passe quelque chose, nous prendrons la direction de Lyon. La crise, merci beaucoup Ronan d'avoir été avec nous et d'avoir participé à notre débat au 32-16. La crise de la soixantaine, signé Christophe Cessieux. Mathieu Jalibert, doit-il renoncer au 15 de France? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h48, merci d'être aussi nombreux à nous écouter en direct, mais également en podcast. Sachez que nous commençons cette émission à 9h et que nous avons évoqué ce France-Nouvelle-Zélande. Est-ce un match capital? C'était très chaud hein, dans le studio RMC. Ce sera certainement le cas dans quelques minutes, à partir de 11h, toujours autour de France-Nouvelle-Zélande. Les Blacks font-ils un complexe face aux Bleus? Vous n'êtes pas d'accord, mais GG. Toujours avec David Douillet, Christophe Cessieux, Philippe Saint-André, Denis Charvet. Et sachez qu'il aura 60 ans, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais le 20 avril prochain. Donc c'est l'instant
fatigue.
L'instant fatigue.
RMC.
C'était vraiment, c'était nul. C'était nul de tous les points de vue, quoi. Je veux dire, on peut pas faire plus nul.
La crise de la soixantaine.
Tous les samedis.
J'en ai ras-le-bol.
Eh oui, dans la ras-le-bol, tous les samedis. Non, Christophe pique sa crise. À vous de me dire ensuite si c'est, s'il a raison ou si c'est dû à la crise de la soixantaine. Mmh. Aujourd'hui, Christophe, et comme la semaine dernière, oui. Le dossier Mathieu Jalibert.
Oui, vous allez croire que je fais une fixette avec ce garçon. Peut-être bien, mais ce matin, c'est vrai que comme la semaine dernière, j'ai encore envie de vous parler de Mathieu Jalibert. Tout simplement parce que depuis samedi dernier, ce France-Japon, que l'ouvreur de l'UBB a passé les trois quarts du temps à cirer le banc, eh bien, sa situation, déjà pas très reluisante, c'est encore un peu plus dégradé. Mercredi soir, on apprenait en effet par l'intermédiaire de son compte Instagram que l'ouvreur bordelais avait quitté Marcoussis pour rentrer chez lui en Gironde. Une décision motivée par une discussion avec son sélectionneur, Fabien Galthié, lui ayant expliqué que non seulement il ne comptait pas sur lui pour le match de ce soir face aux Blacks, ni même pour la troisième et dernière rencontre de la tournée vendredi prochain contre l'Argentine. Galthié lui a tout de même laissé le choix. Oui, il est sympa. Tu peux rester si tu veux, Mathieu, parmi les réservistes, mais t'es pas obligé, et puis sache-le, tu ne joueras pas, et tu ne feras même pas partie de la feuille de match. Alors, Jalibert a serré les mâchoires, il a encaissé le choc, et a pris la décision, peut-être lourde de conséquences, de partir, sac sur le dos, orgueil dans la poche et tristesse au fond des chaussettes. Le lendemain, jour de l'annonce de la composition, Galthié a évidemment été questionné sur le cas Jalibert.
Bien sûr qu'on prend le temps de discuter avec tous les joueurs, beaucoup de joueurs, soit qui repartent, soit qui restent avec nous comme joueurs supplémentaires. L'émulation dans cette équipe, elle est très importante. Le projet, il est collectif. Hein. Et pour construire une équipe, ce qui est important pour nous, c'est la détermination du moment, la force individuelle qui va servir au collectif. Nous, on a besoin de joueurs forts, de détermination. Et jusqu'à présent, même si son parcours n'a pas été linéaire, il a apporté à l'équipe de France son talent. Il a toujours essayé de donner le meilleur de lui-même. Et il continuera s'il le souhaite.
Oui, s'il le souhaite, nous dit Galthié. Jalibert pourra continuer à jouer les faire-valoir, à échauffer les titulaires et à rentrer le mercredi soir dans ses pénates, comme le font la plupart des jeunes joueurs, ceux qui espèrent obtenir leur première sélection et qui croient encore en leur chance. La situation de Jalibert, elle n'est pas la même quand on a 27 ans, qu'on est considéré comme l'un des deux meilleurs ouvreurs français, qu'on a réalisé un début de saison canon et que malgré tout cela, on se voit rétrogradé au rang de troisième, puis de quatrième choix du sélectionneur. Pas la peine de vous faire un dessin. Jalibert a certainement compris que sa carrière internationale avait du plomb dans l'aile et peut-être aussi du plomb dans la cuisse. Un cas de figure que d'autres grands anciens du rugby français ont vécu à leur époque. Je pense à Joe Mazot ou encore à Jérôme Gallion, le fantastique demi de mêlée du RC Toulon des années 80, qui malgré tout son talent n'entrait pas dans les plans du président de la fédération de l'époque, Albert Ferras, qui lui préférait la jeunesse Pierre Berbizier et qui du coup est passé à côté d'une grande carrière en bleu. Alors je sais bien qu'on n'est pas au pays des bisounours, c'est que la loi de la concurrence est l'une des règles essentielles du haut niveau, mais moi, j'ai quand même un peu de mal avec la manière de faire, avec cette gestion qui n'a pas grand-chose d'humain. Peut-être suis-je trop fleur bleue, mais à l'heure où le harcèlement moral est devenu un délit, au moment où le bien-être des salariés est érigé en règle absolue, je trouve qu'un peu plus d'humanité n'aurait pas été de trop. Alors Jalibert s'en remettra, le mec a un talent fou et la tête solide, mais ce soir, devant sa télé, au moment des hymnes, il va sans doute vivre un grand moment de solitude et se poser moult questions. Dois-je continuer à espérer ranger ma fierté et répondre dans le futur aux éventuelles convocations de Galthié ou bien tourner le dos maillot bleu en attendant des jours meilleurs, peut-être aussi un nouveau sélectionneur? Messieurs les anciens champions, je me tourne vers vous. Vous qui avez connu le haut niveau et la règle intransigeante de la sélection, je vais y arriver. Que feriez-vous à sa place et quel conseil donneriez-vous à Mathieu Jalibert?
Ok, Denis Charvet, Philippe Saint-André, notamment, vous les rugbyman, vous êtes interpellés, mais David pourra donner son sentiment aussi. Est-ce qu'il doit arrêter les Bleus?
Il y a très longtemps, j'ai connu la même situation, hein, avec aussi, Jacques Fourroux.
Voilà, après, quand t'es joueur, effectivement, tu crées l'injustice parce que tu penses que t'es le meilleur, mais c'est pas forcément la réalité. Mais je pense qu'il faut pas craquer, quoi. Tout simplement, il faut rester parce que la roue tourne, ça me l'a prouvé. Et en tant que joueur, je suis revenu après avoir été mi-tricard. Mais là, la situation est compliquée et complexe parce qu'en fait, on sent bien, et c'est là où c'est clair et limpide, que Fabien n'a plus confiance en lui.
Il est dur en conférence de presse, non, Fabien. Dur, il dit, moi j'ai besoin de joueurs motivés. Quoi.
Non, mais il est très dur, et puis en même temps, il ne dit pas les choses clairement non plus. Il aurait dû dire, bah, mais en ce moment, je n'ai pas confiance en lui, tout simplement. C'était plus simple de dire ça. Il a détourné un petit peu avec ses mots. Mais bon.
Enfin, même s'il détourne avec ses mots, c'est clair. Hein.
Mais c'est très clair pour moi. Le problème, c'est qu'il a plus confiance en lui. Et ça, c'est terrible pour un joueur de rugby. Un joueur de rugby, là, il va revenir en club, il sera bon en club. Mais quand tu viens en équipe de France, et Philippe en parlait en tant que sélectionneur, c'est compliqué parce que un joueur, il a besoin de la confiance du sélectionneur.
Donc, est-ce qu'il doit s'accrocher?
Ils vont s'accrocher parce qu'on ne sait pas demain, ça peut tourner, mais ça va être très dur.
Ça peut tourner. Ça va être très dur. Ça peut vraiment tourner.
Philippe,
ça peut
être très dur.
Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un divorce entre Jean Libert et Fabien Galthié. Par contre, je pense que Jalibert a fait une erreur de demander de rentrer à Bordeaux. Quand tu es entraîneur, quand tu es sélectionneur, tu fais des choix. Il faut que le joueur soit résilient, il faut que le joueur ne lâche pas. Alors que là, il l'a demandé. Alors,
il paraît que c'est Galthié qui lui aurait laissé le choix. Ben, tu peux rentrer ou tu peux rester, comme tu veux.
Voilà, il lui a
laissé. Ce qu'il veut te dire, c'est que
le choix, tu pour restes, le tester.
Il a raison.
Et pour le tester. Et là, il doit rester. Et là, il doit rester parce que il est parti. Il a gardé qui? Berdeul, le demi d'ouverture de Lyon. Donc, si jamais, par exemple, à l'échauffement, il y a un joueur qui se blesse, c'est Berdeul qui rentre dans le groupe des 23. Et donc, pour moi, Jalibert, il a montré que bon, il le vivait très très mal, mais qu'il ne se sentait pas d'être réserviste pour un match contre les All Blacks. Et donc là, après, Fabien Galthié, dans sa conférence de presse, il a dit, je veux des mecs qui ne lâchent pas, c'est un test.
Il s'adresse à lui indirectement.
Et donc, il s'adresse à lui indirectement. Et donc, je comprends la frustration, c'est le meilleur demi d'ouverture du début du championnat. Et là, Fabien Galthié a choisi trois Toulousains devant lui au poste de demi d'ouverture. Parce que Ntamack est le numéro un, Ramos, et là c'est Antoine Dupont qui va être remplaçant au poste de demi d'ouverture. Donc il l'a très très mal vécu, mais il n'aurait jamais dû rentrer à Bordeaux.
Il n'aurait jamais dû rentrer à Bordeaux. Rapidement, David, t'es d'accord?
Ouais, je suis d'accord. Un divorce, quand il est là, c'est difficile de revenir en arrière. Sauf à ce que ça devienne une hyper source de motivation pour lui et de montrer effectivement qu'il est capable de devancer, de dépasser tout le monde. Mais tout ça reste très compliqué.
Il part de loin, le problème. Il part de loin parce qu'il reproche des choses qu'on connaît tous sur la défense, notamment sur son engagement défensif. Voilà, après il peut progresser, Mathieu, et lui prouver que c'est le meilleur à ce poste-là.
Oui, mais ça va être très compliqué pour lui.
Il part de très très loin.
Et il part de très loin. Ok, on l'aura bien compris. Ce soir, c'est le match à 21h10, France-Nouvelle-Zélande, sans Mathieu Jalibert. Avec évidemment ce 15 qui, on l'espère, va nous faire rêver. C'est 21h10, donc la rencontre. Les Blacks font-ils un complexe face aux Bleus? On se pose la question dans quelques instants. A tout de suite sur RMC. Et puis il y aura le grand jeu des 100 000 euros. A tout de suite.
RMC jusqu'à midi. Les grandes.